pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
L'histoire se passe en 2015. Tandis que la France, émue par l'actualité et la photo du petit garçon échoué sur une plage, prend avec retard le train de l'Allemagne et commence à se mobiliser pour accueillir des réfugiés, on voit poindre une étrange polémique sur fond de crise du logement et de services sociaux débordés. L'élan de solidarité ne cache-t-il pas, comme l'écrit Le Monde, un choix entre les bons réfugiés fuyant la guerre et les autres sans-abri? Un vrai faux malaise commence à se dessiner, une sinistre concurrence de la misère. La pseudo-polémique est immédiatement repérée et utilisée par le Front National pour dénoncer l'abandon des, je cite, « SDF de souche » au profit des clandestins. Quand bien même, rappelle encore Le Monde, 40% des appels au 115 proviennent d'étrangers extra-communautaires. Une initiative salutaire voit alors le jour sur les réseaux sociaux. Posté par un collectif intitulé « Merci pour l'invite », un premier message est ainsi rédigé et publié sur Facebook. Je m'appelle Antoine. Bien que titulaire d'un bac plus 2, je suis SDF depuis 10 mois. Mes amis SDF et moi-même avons été très touchés par la soudaine considération à notre égard de la part de nombreux opposants à l'accueil des réfugiés, prétextant la préférence nationale et écrivant sur les réseaux sociaux des arguments tels que « les nôtres avant les autres ». Merci donc à vous tous, amis extrémistes et xénophobes, pour ces nombreuses invitations de toutes parts. C'est pourquoi, avec mes nombreux potes SDF, nous sommes à la rue mais nous avons parfois même le portable, nous nous engageons désormais à venir camper chez ceux qui tiennent ce discours. Vous comprendrez qu'il est toujours important de joindre le geste à la parole et qu'il serait dégueulasse que le sacrifice des réfugiés ne profite pas, au moins, aux bons Français de souche. Merci encore pour votre invitation et à très vite chez vous. Le message est partagé des dizaines de milliers de fois. Le collectif est ainsi sorti de l'ombre. S'il n'a pas mis sa menace à exécution d'envahir les jardins des frontistes et autres xénophobes, il s'est servi de sa petite notoriété pour lancer de nouvelles initiatives à destination de tous les sans-abri, sans distinction. En 2018, 4 ans plus tard, rien n'a changé. Le Front National appelle toujours à privilégier nos compatriotes et on a vu ses membres distribuer des sandwichs oreillettes de porc aux SDF français lors de maraudes à Toulouse. Aujourd'hui donc, dans les pieds sur terre, deux autres histoires en mode « J'ai accueilli chez moi un sans-domicile fixe » par Yann Thompson, jusqu'à 14h dans les pieds sur terre.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Sylvie, j'ai 53 ans, j'habite à Versailles. Un soir, alors que j'étais sur Internet, j'ai été voir sur la page du 115 du particulier qui met en relation des hébergeurs potentiels avec des personnes sans-abri. Il faisait vraiment, vraiment très froid. Et puis, il y a une petite annonce qui s'est retrouvée sur le 115. Un jeune homme qui disait qu'il était dans une cabine téléphonique en train de dormir, enfin, de se reposer avec son chien. Et donc, il demandait aux gens soit de lui téléphoner pour passer la nuit avec quelqu'un, soit, enfin, si on pouvait l'héberger. Alors bon, moi, comme je suis une femme seule, voilà, un homme, je sentais pas du tout. Moi, je m'étais dit que si je devais un jour héberger quelqu'un, j'hébergerais éventuellement une femme, quoi. Et puis, il y avait cette annonce qui trouvait pas de réponse. Alors, au bout d'un moment, quand même, vu le froid qu'il faisait, je me suis dit, mais enfin, il y a quand même cet homme qui va finir par vraiment crever de froid, quoi. Alors, j'ai fini par l'appeler. Et donc, je suis tombée sur déjà un petit gars avec un fort accent du Sud. Et puis, on a dialogué vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ensuite, j'ai pris assez rapidement la décision de lui venir en aide. Parce qu'il avait une motivation vraiment très, très forte. Il voulait repartir dans le Sud pour retrouver le droit de garde de sa petite fille. Donc on s'est mis d'accord pour se donner rendez-vous, j'ai été le chercher à une gare. Et voilà comment ça a commencé, quoi. que je suis arrivée, il était là, il pleuvait, et il était planté là, devant la gare, avec son chien. Avec pour seul bagage un sac à dos, un petit sac à dos, vraiment. Ça, c'est la première impression que j'ai eue, c'est sa vie tient dans un sac à dos. Et voilà, c'était quelqu'un de très maigre. Il était très maigre, Lou.
Il s'appelle Lou.
Lou des Plaines, c'est son pseudo. Lou. Et c'est parce qu'il a un petit côté indien et que Lou des Plaines, c'est son côté indien. Et voilà, et donc il est monté dans la voiture. Donc à l'avant, le chien est monté derrière. Donc au départ, je me suis... Bon, c'est un berger allemand, faut espérer qu'on s'entende bien, ça serait mieux, ça serait quand même plus sympa. Et puis voilà, on est arrivé à la maison. Le premier soir, on était aussi mal à l'aise l'un que l'autre. Donc moi, je lui ai dit ce que j'attendais de lui. Alors moi, ce que j'attendais vraiment de lui, c'était qu'il se lève le matin, enfin voilà, qu'il soit propre, que la chambre soit faite. Et je lui laissais à disposition un ordinateur afin qu'il fasse des recherches, soit pour trouver du travail, soit pour trouver... Enfin, de toute manière, pour qu'il trouve quelque chose pour pouvoir avancer, pour sortir de ce système. Et lui, ce qu'il attendait de moi, c'était une aide pour remettre à jour à peu près ses papiers et une aide aussi pour pouvoir rejoindre le sud, pour pouvoir retrouver sa fille, quoi. Ça, c'était son but premier. Donc, moi, je suis quelqu'un qui a un fort caractère. Donc, moi, je l'ai prévenu directement que s'il y avait une faille au contrat, entre guillemets, que j'hésiterais pas à le mettre dehors, quoi, sans problème. J'espère, enfin, moi, c'était, voilà, j'espère qu'il est ce qu'il a montré. Avec, ce doute. Moi, le lendemain, je pars bosser en me disant, quand je rentre, est-ce qu'il sera encore là? Est-ce que tout sera dépouillé? Enfin, éventuellement, on n'en sait rien, ça. Ça, on n'en sait rien, même si j'ai un très, très fort caractère. Et je lui avais dit, si c'est vraiment tu cherches à m'avoir, je te retrouverai, et tu le paieras, quoi. Alors, moi, je travaille dans un collège. Je fais de l'entretien et de la demi-pension, enfin voilà. Mais j'ai des horaires. Je pars très tôt le matin, je rentre dans l'après-midi. Donc, quand je suis rentrée du travail, il était là. Il était sur l'ordi, d'ailleurs. Il m'a montré un petit peu ce qu'il avait... les recherches qu'il avait faites. Et donc, on a beaucoup à nouveau parlé. Et ce soir-là, on a beaucoup, beaucoup rigolé, en fait. On a vraiment beaucoup rigolé et je pense que c'est le chien qui a été vraiment celui qui a fait que déjà qu'on a su à quel moment on était en phase. Et ça, c'est le troisième jour, parce que pour la première fois, le chien était allongé, mais de tout son long par terre, et on pouvait l'enjamber. Il s'occupait plus de rien. S'il y avait un bruit dans l'escalier, il bougeait même plus. Enfin, voilà, le chien... Lui, la confiance, il l'avait. Et je pense que Lou, le fait que son chien me fasse confiance, Lou aussi. Son chien, c'était vraiment son baromètre. Et son baromètre disait, c'est cool, quoi. Parce que le plus gros problème qu'avait Lou, quand il arrivait chez moi, c'était un manque de confiance énorme en lui. Beaucoup de gens lui avaient laissé croire qu'il valait rien. Et puis, voilà, il avait fini par les croire, quoi. Donc, le plus dur, c'était de lui redonner confiance en lui. Et lui redonner confiance passe aussi par le fait d'avoir confiance en lui, quoi. En général, c'est moi qui préparais à manger. Et ensuite, pour qu'il se sente bien, enfin, pour qu'il se sente plus chez lui, en fait, il faisait la vaisselle. Le fait d'être dans la cuisine, de laver des trucs, de les ranger, c'est s'approprier les lieux aussi, réellement. Donc voilà, on était une super équipe. Je salissais la vaisselle, il la lavait. Alors entre-temps, sur Facebook, on a lancé un appel en disant « Voilà, Lou est à Versailles, il doit rejoindre Montpellier. Qui pourrait les bergers en route, qui serait sur tel tracé de route, qui pourrait l'aider, qui pourrait ceci, qui pourrait cela. Et puis au départ, c'est parti vraiment comme un petit truc, sur un mur. Bon. Et puis ce petit mot de rien du tout, il est parti, il a voyagé jusqu'au Brésil. Et là, donc, il y a eu cette femme fabuleuse, cette brésilienne, qui, elle, d'un seul coup, mais a remué ciel et terre. Elle lançait des appels de partout en disant « Oui, il faut envoyer des mandakash, oui, il faut l'aider, oui, il faut... » Et alors elle a plombé tous les murs de cet appel. Et elle a remué réellement un nombre de gens incalculable. Moi, j'étais impressionnée par le nombre de réponses qu'on avait. Alors, il y a ceux qui se proposaient sur cette route en disant « Voilà, s'il passe là, moi, je peux l'héberger. » Une nuit, deux nuits, trois nuits, voilà. Après, hop, telle partie, une nuit, deux nuits, trois nuits aussi. Et en fait, chacun disait ça. Une fois que Lou avait trouvé un petit peu, alors voilà, le chemin qu'il devait faire pour retourner là-bas, il s'avère qu'il avait une voiture qu'il avait abandonnée dans un coin depuis quelque temps, qui avait plus d'essence ni rien. Il n'était même pas sûr qu'elle soit toujours à sa place. Donc, il fallait aller retrouver cette voiture. Mais le problème, c'était déjà de savoir si elle allait démarrer, si elle allait fonctionner, et que cette voiture puisse aller jusque dans le sud. Là, il y avait un affreux doute, quoi. Donc, il a donc décidé d'aller vérifier ça. Et c'est ce en quoi cette histoire a été fabuleuse, c'est qu'elle a remué un nombre de personnes incalculables. Et là, c'est carrément un gars du Cap-Vert quoi, qui l'a rejoint à l'endroit où il y avait la voiture, un gars qui était en vacances, qui l'a aidé à le démarrer et qui a été le premier à aller chercher un bidon d'essence. Et donc, voilà, Lou est parti avec Beau dans cette voiture, en disant « j'irai jamais au bout ». Mais bon... avec les étapes prévues à l'avance, dormir à tel endroit, jusqu'au bout, quoi. Ça a été ça. Et donc, comme lui, il était sur la route, les gens m'envoyaient en message privé sur Facebook le numéro des mandakash. Et le soir, quand il rejoignait une destination, je le contactais et je lui donnais les numéros des mandakash. Et alors, c'était rigolo, il y a des mandats à 5 euros, 10 euros, 3 euros, 50 euros... Enfin, voilà. L'avant-dernière personne chez qui il était, très très vite, la manière dont il m'en parlait, en rigolant, je lui ai dit « Ah, mais t'es amoureux de cette femme ?» Et il me dit « Ben non, pas du tout. » Enfin, voilà. Et en rigolant, je lui ai dit « T'es amoureux, tu le sais pas encore. » Et il se fichait de moi. Il m'a dit, certainement pas, il rigolait en me disant, oh, elle a le même caractère que toi, tu rigoles et tout. Et donc, il a fini chez une autre personne. Et là, ça s'est passé plus ou moins bien, on va dire. Il n'avait pas le droit de toucher à quoi que ce soit dans la maison, et pas parce qu'on lui interdisait, c'était pas, t'as pas le droit de toucher, c'est, non, la vaisselle, là, je vais faire. Fais pas à manger, non, je vais faire. Non, le ménage, je vais faire, non, machin. Et d'un seul coup, il n'était plus acteur du tout, il était spectateur. Spectateur de sa propre vie. Et il est donc retourné chez notre petite Françoise. Françoise, l'avant-dernière étape. Et puis là, il y a une belle histoire d'amour qui a commencé. Dans le même temps, il a trouvé du travail. Et puis, donc, il a emménagé réellement chez Françoise, parce que là, il n'était plus hébergé. Et il fait de la récolte de pommes. Mais du coup, il travaille à l'année parce qu'il fait aussi la taille. Il fait tout ça, donc voilà. En plus de ça, donc, il fait des bijoux, fantaisie. Il travaille beaucoup avec des plumes d'oiseaux. Il fait des boucles d'oreilles avec des plumes. Il fait plein de choses. C'est un gars heureux. Et puis bon, il a quand même réussi à récupérer sa fille. Enfin, à récupérer ses droits. Et donc, moi, cet été, j'ai été chez lui. Voilà, j'étais passé une semaine chez lui. Et sa fille était là, d'ailleurs. Et... Ce qui est quand même assez fabuleux, c'est quand même il a vécu chez moi. On a lié tissé des liens d'amitié hyper forts. Et on s'est aperçu cet été que c'était la première fois qu'on se faisait la bise. En fait, on ne s'était jamais fait la bise de tout le temps, même quand il est parti de chez moi. Et cet été, pour la première fois, on s'est embrassé. Comme quoi, tout arrive. Hein. Et oui.
France Culture, les pieds sur terre.
Bon, bah, moi, c'est Isabelle, j'ai 57 ans et mon mari Philippe, qui en a eu 60 cette année. Je suis dentiste, enfin, je suis chirurgien dentiste. Et puis, je m'occupais bénévolement de papier d'une association, je faisais un peu la comptabilité. Et puis, je reçois un appel. On me disait, est-ce que tu pourrais donner un coup de main pour faire des papiers? Voilà, on a récupéré trois jeunes qui étaient dans la rue, 20 ans, 22 ans et 24 ans. Il y a tous les papiers à faire, donc je dis d'accord, donc je vais les voir. Et puis, à l'époque, c'était en novembre, donc il commençait à faire très froid par chez nous. Et donc ils avaient été logés par des gens dans un camping-car, donc ils étaient à trois dans un petit camping-car. Un jour, dans la nuit, je reçois des textos de la personne qui m'avait demandé de l'aide pour ces trois jeunes, et cette personne me dit « Oh voilà, ça se passe mal dans le camping-car, ils se sont bagarrés forcément, trois grands gaillards dans un tout petit camping-car, ça devait pas être évident ». Donc bah, j'avais déjà plus ou moins pensé à les prendre. J'envoie des textos à mon mari pour lui dire, tu sais, ils sont dehors, tout ça, bon. Et puis, donc je lui dis, bah, écoute, on va aller les chercher, puis on s'organisera, voilà. C'est pas moi qui suis allée les chercher, puisque j'étais en formation. C'est mon mari qui est allé les chercher, donc je pense qu'ils n'étaient pas au courant quand il est allé les chercher dans le camping-car. Et je me rappelle très bien quand ils sont venus me chercher à la gare de Douai, ils étaient, parce qu'en fait ils sont venus avec mon mari. Hein, mon mari me dit c'est rigolo, et on dirait des jeunes chiots, ils n'arrêtent pas de me suivre. Enfin, visiblement, ils se raccrochaient fort à mon mari qui faisait comme un peu comme le papa quoi, pour eux trois. Et puis donc c'était assez gai, ils étaient contents, enfin vous voyez, c'était sympathique quoi. Ils étaient très très mal habillés, ils avaient des chaussures trouées, et des petits blousons de rien du tout, vous savez, très fins, des blousons d'été. Donc moi j'avais peur qu'ils aient froid, donc je voulais absolument leur acheter un blouson, un pantalon, un sweatshirt, des chaussettes, des slips et puis des chaussures. Bon, ils voulaient des trucs de marque, ils voulaient des trucs à eux. Enfin, il y en a un, donc il s'était mis en colère. Il voulait, on va dans un magasin, il voulait un blouson à 200 euros. Je dis, mais je peux pas t'acheter un blouson à 200 euros. Je dis, même moi, je m'achète pas ça. Vous êtes trois. Je dis, non, c'est, en plus, c'était, non seulement c'était à 200 euros, mais c'était un truc tout fin. C'était loin de l'idée de ce que je voulais leur acheter. Moi, je voulais acheter quelque chose. Je dis, écoutez, il faut au moins que vous ayez chaud pour aller travailler. Après, vous achèterez ce que vous voulez et tout ça. J'avais calculé l'IMC du plus grand, là. Et, je sais pas, il devait faire dans les 49 kilos, 1m86. C'était vraiment très, très, très maigre. Il y en avait deux très maigres comme ça. Et puis, un qui est un petit peu plus costaud, il était. Bon, enfin, on voyait bien qu'ils avaient des enfances de merde, hein. Des enfances sans père ou des pères violents. Enfin. Bon, ils n'ont pas eu ce qu'il fallait, je pense. Bah, puis j'ai déjà eu trois enfants avant, hein. Donc bah, je revenais un petit peu en arrière, je m'organisais, je faisais mes plats, je marquais ce que je devais acheter, et puis on s'organisait. De temps en temps, le lave-vaisselle, il vidait, il mettait la table, il donnait un petit coup de main quand il pouvait, quoi. Parce que bon, je travaille, et puis non seulement je travaille, mais j'avais ma mère qui était à l'hôpital, qui était, on va dire... en train de mourir. Les repas, bon, au début, on mangeait ce que je faisais, des légumes et tout ça, puis petit à petit, un petit peu moins. Je voyais qu'il laissait dans l'assiette. Ça m'énervait un peu, parce que ben, nourrir trois personnes supplémentaires. Il y avait une gestion qui était difficile parce que je savais pas trop quoi leur donner à manger, quoi. À ce moment-là, j'ai appris que ma mère allait rentrer. Je me rappelle, c'était le 9 janvier. Ma mère allait rentrer de l'hôpital à la maison. Et qu'elle rentrait pour mourir. Hein. Le premier jour, il y en a un des trois. Il n'est pas rentré. C'était un dimanche soir. Ma mère est rentrée le lundi. Donc là, le lundi matin ou lundi après-midi, il rentre. Il dit, oh, faut que je te parle, Isabelle. Là, je dis, non, hein, là... Je suis vraiment désolée, mais là, ma mère est rentrée. Si ça t'embête pas, c'est ma priorité. Le lendemain, il est allé travailler. Puis, je sais pas, il commence, oh, puis mince, j'ai pas envie. Puis, oh, puis, parce qu'il parle un peu d'une façon, pas pareil que nous, hein, il parle le langage de la street, on va dire. Et donc, ce garçon est parti, comme ça, il a pas voulu aller travailler. Puis, alors là, j'ai pas cherché. J'ai dit, bon, c'est fini. J'ai pris ses affaires, puis j'ai remis ça dans l'association d'où il venait. Et celui-là, c'était fini. Il a voulu me téléphoner une ou deux fois, j'ai dit non. Visiblement, ils avaient quand même un petit peu de... Il y en a un qui avait un frère, l'autre qui avait une petite amie. Donc, de temps en temps, comme ils n'avaient pas beaucoup d'affection, puis moi, je suis pas du genre à leur faire des bisous et tout ça, surtout pour moi. Donc, je me suis dit, faut quand même qu'ils aient un petit peu d'affection. Hein. Donc, on s'accoupine. J'ai dit, si tu veux, on peut aller la chercher ce week-end, elle dormira là. J'ai pas dit tous les week-ends, j'ai dit un week-end, mais malheureusement, ils ont compris tous les week-ends. Donc, j'ai dû aller la chercher à partir du vendredi, tous les week-ends. Notre vie de couple a été mise un petit peu en suspens. On n'avait plus d'intimité du tout. On n'allait pas au restaurant ou des choses comme ça, non, on faisait plus. Non, de toute façon, on ne pouvait pas dépenser l'un et l'autre. Je faisais venir une esthéticienne régulièrement, là je ne faisais plus. On ne s'est pas acheté d'habits, on ne s'est pas acheté de chaussures, on devait changer de voiture parce qu'on avait une vieille voiture, on en a encore. Bon, on n'a pas changé, on s'est adapté à eux, quoi. C'est pas eux qui se réadaptent à nous. On était comme en temps de crise, quoi. Comme une crise, qu'il faut passer. Et ils faisaient tout, ces garçons, pour s'en sortir, hein, les deux qui restaient. Ils avaient leur caractère chiant, hein, pour dire qu'ils étaient chiants. Mais à un moment donné, je me suis dit, je vais tout faire pour leur apprendre ci, leur apprendre ça. Mais j'avais plus de force, quoi. Je pensais pas non plus que ça allait durer si longtemps. Hein. Quand on les a pris comme ça, les trois, je pensais que soit on allait retrouver... je pouvais pas m'imaginer que l'alternative à chez nous, ça allait être dans encore la rue pour eux, quoi. Je me suis dit, il va y avoir quelqu'un qui va s'occuper d'eux, une assistante sociale, un truc comme ça. Mais là, c'est pareil. J'ai essayé de téléphoner à droite, à gauche. Il n'y a jamais personne qui répond. Je n'ai pas trop insisté non plus parce que j'avais pas le temps. Hein, donc, c'est tout, on continue comme ça. Puis moi, je voyais comme alternative, c'était de leur trouver un travail. Et puis à ce moment-là, c'était tout. C'est l'association qui leur a trouvé le travail. Et le travail, c'était pas vraiment un travail vraiment facile. Hein. C'est de l'entretien, c'est des trucs lourds, quoi. C'est des conditions difficiles, travailler dans le froid. Comme il dit, le froid, c'est dans la tête. C'est tout le temps ça. Ouais. J'ai dit, ça ne peut pas rester. De toute façon, là, ils ont un boulot. On va les meubler. Alors, j'ai commencé à voir dans ma tête un petit peu comment ça allait être fait. Et je suis allée voir le maire, en fait, de ma commune. Il y avait des logements qui allaient être vacants. Donc, de ce fait-là, ils ont eu assez vite des logements. Donc, au mois de mai, on a su qu'ils avaient des logements pour juillet. Mais là, c'est vrai que là, c'était déjà un peu cassé, quoi. On s'en sentait que ça se séparait, quoi. Moi, j'avais envie qu'ils soient contents de partir, quoi. C'est ça. Je voulais pas montrer que je les jetais, quoi, que j'étais débarrassée. Ouf, je suis tranquille. Non, c'était pas ça. Je voulais qu'ils soient lâchés dans de bonnes conditions, quoi. Comme un enfant qui quitte
le logis de ses parents, quoi. Ils sont partis avec un frigo, chacun, une gazinière, vraiment l'essentiel. Hein. Ça, je vais t'acheter chez Ikea des trucs pas très chers, mais tout neuf. Hein. Rien de fouf, quoi. On s'est tous mis pour qu'ils aient comme un jeune qui n'a pas été dans la rue, quoi. Je pense que tout le monde démarre dans la vie avec... Même pas avec ça, quoi.
Est-ce que vous seriez prête, Isabelle, avec votre mari, à revivre ce genre d'expérience?
Non. Non, actuellement, parce qu'on est vraiment trop fatigués. Là. Et c'est important pour moi d'être bien, de retrouver mes affaires. Je retrouve plus rien. Je suis perdue dans chez moi, quoi. Et j'ai mis en stand-by 9 mois de ma vie et je regrette pas, hein, mais il faut que je me sente chez moi avant de réintroduire quelqu'un d'autre. Et là, je pense que je cadrerai un peu plus, quoi. Ce que j'ai appris, par contre, avec ça, c'est que chacun a son rythme, quoi. Moi, je voulais vraiment, en 8 mois, te redresser tout le monde. Mais non, ça, c'est pas possible. Ils ont des rythmes, même eux, ils ont des rythmes différents. Et puis, ce que je veux surtout, eux, c'est qu'ils soient heureux. Pour moi, je serais fière quand ils auront une vie de famille. Alors, je leur ai dit, si vous vous mariez ou vous faites un peu... J'espère que je serai invitée. Voilà, c'est ce que je leur ai dit. Ils disent, oui, de toute façon, il n'y a pas de souci. Si on se marie, c'est sûr que t'es invité. Bon, alors, ça va.
Encore, c'était Les Pieds sur Terre avec un SDF sous mon toit, reportage de Yann Thompson, réalisé par Marie Placet et diffusé pour la première fois le 27 novembre 2015. Merci à Sylvie, à Isabelle, à Philippine Lebret. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Céline Autin, c'est notre stagiaire.